On le dit depuis un certain temps, nos salaires ne suivent pas l'augmentation du taux de la vie, du coût de la vie, avec la hausse du coût des denrées, de l'épicerie. On a eu ce débat-là, vous en souvenez, au cours des derniers mois. On a beaucoup parlé du fait que certains prétendaient pouvoir faire une épicerie à 75$, alors que dans les faits, il faut vraiment être créatif pour y arriver. Sans oublier que le Québec est effectivement pas mal taxé, plus que jamais. Quand vous préparez vos rapports d'impôts, vous avez peut-être déjà commencé à ramasser vos affaires, vos papiers, le T4 le prouve. Quand vous comparez là, vos T4 de l'année dernière, 2018, avec ceux des années précédentes, est-ce que vous avez été capable d'augmenter vos revenus? Il y a l'Institut économique de Montréal qui vient de publier une étude et qui nous rappelle, en fait, c'est pas une nouvelle, on le sait, mais disons que ça s'améliore pas. Les Québécois ont un niveau de vie peu enviable. On serait même en queue de peloton quand on compare notre niveau de vie avec celui des autres pays et des autres provinces. Fait que parmi les... C'est pas rien, là. Au Canada, on le savait, là, qu'on était en queue de peloton, que notre niveau de vie était moins important que celui des autres. Mais quand on se compare avec les autres pays industrialisés, on est encore à la traîne. Fait que c'est bizarre parce qu'en même temps, on a vraiment l'impression, puis beaucoup d'immigrants le disent, beaucoup de gens qui viennent ici le disent, mon Dieu, il y a une belle qualité de vie. C'est de ça dont je voulais parler avec vous, puis je compte sur vos interventions, chers amis, pour nous éclairer là-dessus. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous faites, vous, plus ou moins d'argent en 2018 qu'en 2017? Je vous pose la question par rapport à l'année dernière, justement, parce qu'on a des impôts, puis c'est là où on peut comparer vraiment là, des chiffres de façon bien tangible. Avez-vous l'impression d'avoir plus de moyens financiers ou moins? 514-790-9850 pour nous le dire. Vous pouvez nous joindre sans frais de l'extérieur en faisant le 1-866-790-9850. Patrick White est journaliste indépendant. Il est avec nous. Merci d'être
salut,
là, Patrick.
Salut.
Yannick Gagné est un entrepreneur, également président de sa propre agence, Boardwalk Marketing. Bonjour, Yannick.
Bonjour, Isabelle.
Tous les deux, comment vous vivez ça? Je commence avec Patrick, qui a changé d'emploi dernièrement, en fait, qui a perdu son emploi juste avant les fêtes.
Oui, en octobre, ben, c'est la vie, mais c'est sûr que 2018, pour moi, ça a été une année difficile avec cette fin d'année-là. Mais la vie continue. Puis au plan salarial, j'étais très bien traité au off-post. Je pense que le fond du problème qu'on voit, c'est que les hausses salariales ne suivent pas du tout l'inflation. Le Québécois moyen n'épargne pas, est très endetté, fait les paiements minimums sur une carte de crédit. Et ben, pour rembourser une carte de crédit avec le paiement minimum, c'est 30 à 35 ans pour rembourser une carte. Puis tu as une famille sur deux au Canada qui est vraiment... proche du précipice par rapport à l'endettement des ménages, des cartes de crédit. Si tu regardes les fonctionnaires au Québec, l'étude de l'IRIS publiée ce matin, moins 2% de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires au Québec dans les 18 dernières années. 24% de salaires moins élevés qu'au municipal, qu'à Hydro-Québec, qu'au fédéral, alors qu'il y a quand même une certaine croissance dans le secteur privé des salaires.
Mais en fait, les salaires ne suivent pas du tout. Emplois très féminins qui sont les moins rémunérés. Je pense qu'il faut le dire
oui,
aussi.
Exactement.
C'est ce qui ressort
oui,
beaucoup.
72%.
Le, le niveau de vie des employés de l'État a reculé depuis les 15, 19, presque les 20 dernières années. Et c'est beaucoup les emplois où les femmes sont en majorité. Donc, on pense au réseau de la santé, au réseau de l'éducation.
Où 72%,
oui. Il y a eu une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que c'est sûr que si tu baisses ton pouvoir d'achat, ça veut dire que tu baisses tes revenus. Là. Ça marche comme ça. Yannick Gagné, comment tu vis ça de ton côté comme entrepreneur qui doit arriver comme tout le monde?
Ben, c'est très
et qui, en plus,
hein.
doit prendre des risques financiers.
Ouais. Ben oui, c'est très difficile parce que je regardais, ben, bon, écoute, je vis dans le déni, je n'ai pas encore commencé mes impôts, j'essaie de vivre dans le déni le plus possible, mais personnellement, je crois que j'ai augmenté mes revenus un peu l'année passée, mais il a fallu que j'augmente de beaucoup mes heures travaillées. Donc, on compare les heures travaillées par rapport aux revenus gagnés. C'est pas une augmentation. Surtout qu'on va se dire, plus on travaille, plus on dépense. Il faut se déplacer, il y a des dîners, il y a tout ça. Donc, non, c'est très difficile d'augmenter son pouvoir d'achat, même pour utiliser un petit terme plus québécois, en mettant le pied sur la pédale du gaz, c'est plus difficile. Je pense que personnellement, c'est sûr que mon niveau d'achat a diminué pendant l'année dernière. Mais écoute, on s'ajuste, hein? On n'a pas le choix de s'ajuster à la réalité.
Et comment tu t'es ajusté, justement? Je pense qu'au niveau de la consommation, tu as décidé de faire des choix de moins consommer.
Oui, de moins consommer, que ça soit pour les vêtements pour moi, pour les enfants, c'est sûr que c'est difficile de couper. Mais pour mes vêtements à moi, c'est sûr que dans la dernière année, j'ai coupé. Les vacances ont été plus courtes, habituellement, par une dizaine de jours. Ben, l'été passé, on est parti 6 jours seulement. Donc, c'est des ajustements qu'on fait à notre train de vie pour essayer de rattraper là, notre perte de revenus qu'on a pendant l'année.
Oui, Patrick White, comment tu as fait, toi, parce que tu as
une
maison?
Là, je fais mon compte maintenant, mais transport en commun, moins de restaurants.
Mais avais-tu une voiture, puis tu l'as vendue?
Non, toujours, on a toujours la voiture, on est deux, c'est pas un souci. Mais quand même, il faut penser que le transport en commun, à 80-85 piastres par mois, ça fait quand même la job à Montréal pour aller du point A au point B, même... J'essaie souvent, quand je vais à Chambly maintenant, je prends le bus qui part du Mille-la-Gauche-Chatière. C'est très, très efficace. Donc, il y a un moyen avec les transports en commun, en réduisant certaines dépenses, de bien s'en sortir. Mais si on n'épargne pas, on n'est pas très avantagé à la fin de la route.
Ben, c'est-à-dire, toi, tu es un bon exemple de ça. Tu étais éditeur et rédacteur en chef du
Huff Post supérieur dans
Québec.
Une multinationale. Ouais.
Tu voyais pas la fin de cet emploi-là, en tout cas pas à court terme, ça t'a surpris, là.
Ben non, je le sentais parce que Verizon coupait
mais
la
haute
direction.
Mais tu t'attendais pas à ce que ça arrive demain matin.
Pas cette journée-là, ouais. Non, disons. Puis ben, comment on se réinvente? Ben, avec un emploi à son compte. Un emploi à son compte, ben, t'es à la maison, il faut se motiver également. Et puis il faut réduire son style de vie, ça c'est clair.
Qu'est-ce que t'as fait depuis octobre de différent?
Ben, c'est vraiment beaucoup plus de marches, beaucoup plus de transports en commun, moins de restaurants, planifier davantage les voyages. Et puis, souvent,
couper
pour
les
voyages.
Restos, ouais. Couper les vraiment, restos, ça, c'est comme la première
choix.
Affaire.
Ouais. Effectivement.
Puis les voyages, les vacances, as-tu coupé là-dessus?
Non, mais planifier davantage, à l'avance. Ouais.
Toi, t'es... Oui, vas-y, Yannick.
Ben, c'est difficile en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome parce que, bon, si tu travailles pour un patron, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu fais ton 9 à 5, tu as ton chèque au bout du mois, au bout de la semaine, aux 2 semaines. Mais en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, il faut que tu pousses encore plus parce que là, tu es responsable d'aller chercher ton propre argent pour pouvoir arriver. Donc, c'est encore plus difficile, je trouve, en tant qu'entrepreneur et travailleur autonome. Là,
mais bon. Effectivement, puis tu es à la merci de tes clients aussi, là. Ça
tout
peut être
fait.
Effectivement stressant quand on n'a pas, tu sais, le lundi matin, là, c'est pas évident. Là.
Faire un client le lundi, c'est si le mardi, ta vie a changé.
Exactement. Merci tous les deux. Vous restez là, Patrick, Yannick, bien sûr, va se joindre à nous tout de suite après la pause. Germain Belzile, il est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. Il va nous dire, à son avis, quelle serait la solution pour essayer de retrouver un peu de notre pouvoir d'achat, faire en sorte que les Québécois cessent d'être en queue de peloton au niveau du niveau de vie. Puis, en ce qui concerne niveau de vie, qualité de vie, j'aimerais qu'on aille un peu là-dessus avec, bien sûr, les commentaires de nos auditeurs. Est-ce que le fait de ne pas faire autant d'argent que le reste des Canadiens, ne serait-ce que ceux-là, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez fait d'autres choix? Moi, dernièrement, j'ai ressorti un livre que tout le monde connaît, « Vivre avec la simplicité volontaire ». Non, mais c'est très bon de se remettre en bouche là, ces espèces de règles de base, hein? Simplicité volontaire.
En as-tu vraiment besoin, Isabella?
Ben, il y a ça, sincèrement. 514-790-9850. Dites-moi comment vous avez vécu ça. Est-ce que vous faites plus ou moins d'argent cette année, selon votre T4? Là? Qu'est-ce qui vous dit, votre T4? Est-ce que ça a été une bonne année, 2018, et comment vous voyez 2019? À tout de suite, tout le monde. On s'intéresse ce matin à notre niveau de vie comme citoyen contribuable québécois. Puis je vous demande, est-ce que vous avez fait plus ou moins d'argent en 2018? Donc, évidemment, la période des impôts est en ce moment. Là, vous devez ramasser les petits reçus qu'il y a dans votre boîte de chaussures si vous êtes travailleur autonome pour essayer de faire des déclarations d'impôts qui se tiennent, puis peut-être économiser ici et là. Il y a la période des REER qui se vit jusqu'à la fin du mois. Et puis, c'est le T4 que bien des gens reçoivent aussi. On l'a dit, des fonctionnaires du gouvernement, beaucoup dans les réseaux de la santé et de l'éducation majoritairement féminins, où là, les emplois, carrément, n'ont pas été très payants, où il y a même eu carrément une baisse qu'on est capable de chiffrer du niveau de vie de ces travailleurs, surtout des travailleuses. On a Dany avec nous, qui travaille dans le milieu de la finance. C'est bien ça, Dany?
Oui, je suis analyste hypothécaire pour une institution financière et je vous dirais, le gros problème, c'est pas nécessairement les revenus gagnés, c'est les habitudes de vie. Les gens vont avoir 2 voitures dans le parking avec des paiements de 500$ par mois, une carte Costco loadée à 5000$, il va avoir une grosse maison de 400 000$. Les gens ont de la misère à arriver parce qu'ils n'adaptent pas leurs habitudes de consommation d'une manière saine avec les revenus qu'ils génèrent. C'est ça le gros problème, c'est l'endettement et les habitudes de consommation, pas nécessairement le revenu gagné.
Ouais. Mais par exemple, vous, j'imagine, comme vous êtes analyste financier, vous tenez les cordons de la bourse serrés chez vous?
Ah ben oui, c'est sûr. On ne va pas au restaurant chaque semaine. On cuisine, on fait des petites sorties en famille qui ne coûtent pas une fortune, mais on est en mesure de rester heureux. On a une approche semi-minimaliste, puis on s'en tire très bien et très heureux dans la vie. On n'est pas obligé de flasher, devenir flamboyant pour avoir une vie bien remplie, bien comblée.
Mais c'est toujours intéressant quand même de se comparer au niveau de vie des autres. Puis quand on regarde ce qui se passe dans le reste du Canada, même par rapport à des provinces plus pauvres que le Québec en matière de ressources naturelles. Genre, on a quand même Hydro-Québec, on a des fleurons ici. Est-ce que vous n'êtes pas étonné de voir que les Québécois sont en queue de peloton en ce qui concerne justement les revenus et le coût de la vie est quand même assez important ici malgré tout, même si on dit qu'on a une belle qualité de vie. Il y a comme des données contradictoires, je trouve, là-dedans.
Ben, je suis pas si étonné ça vu du fait que, tu sais, avec les deux paliers de gouvernement, des fois, on s'en fait passer un petit peu plus au niveau de l'impôt, mais on a des services ici, on a vraiment, tu sais, au global, on a une belle qualité de vie. Des fois, on se plaint un peu la bouche pleine avec tout ce qu'on a, les choix qu'on a fait comme société, on est vraiment choyé. Et le niveau de vie, ben, tu sais, c'est quelque chose de quand même assez relatif. Pour avoir voyagé un peu, j'ai vu des gens avec des revenus très, très faibles en Asie qui étaient heureux, peut-être bien plus heureux que vous et moi ensemble,
là, ouais.
Au niveau du niveau de vie. Là.
Merci beaucoup, Dany, de votre intervention. Merci bien. Avec nous, Germain Belzile, il est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Germain.
Bonjour, Isabelle.
Là, vous sortez une étude qui nous, à l'IEDM, qui nous montre effectivement qu'il y aurait peut-être une façon, en tout cas, c'est votre suggestion, d'augmenter le niveau de vie des Québécois. Et c'est carrément, on revient à la fameuse hausse de productivité. Et aussi, surtout, vous dites, il faut absolument réduire les dépenses de l'État. L'État nous bouffe un peu trop de nos ressources, nous pompe un peu trop notre argent. C'est ce que vous dites, Germain Belzile.
Oui, ben en fait, les revenus et le PIB à long terme par habitant sont reliés de très, très près à la productivité. Et puis, notre productivité a cru à un rythme vraiment plutôt minable depuis 35 ans, 1,2% par année en moyenne. C'est bien en bas de la plupart des pays européens, des États américains. C'est pas des chiffres de moi, par contre, c'est des chiffres qui viennent du Centre sur la productivité et la prospérité à HEC.
Oui.
Et puis, ça nous laisse en queue de peloton, ça, cette productivité plus faible, que crue plus lentement, au niveau du PIB par habitant, aussi du niveau de vie, des revenus annuels. On sait déjà qu'au Canada, on a le revenu disponible par habitant le plus faible ou l'avant-dernier plus faible. Je pense qu'on est à égalité avec le Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça, je me souviens bien.
Mm-hmm.
Et quand on se compare à d'autres endroits, ben en arrière de nous, par exemple, dans l'OCDE, ben il y a la Corée du Sud qui va nous dépasser bientôt. Il y a l'Espagne qui est en arrière de nous autres, mais c'est pas nécessairement une... Mon Dieu. En avant de nous, l'Italie, ouais. on a un PIB par habitant plus faible que l'Italie, plus faible que la plupart des partenaires développés de l'OCDE. Et c'est pas normal. Ça fait 35 ans qu'on stagne comme ça. Et puis...
Donc, vous dites que les Québécois ne travaillent pas assez. Il y a ça.
Non, ils ne sont pas assez productifs. C'est-à-dire, productif, ça veut dire que je travaille pendant une heure, mais je produis moins que si j'étais installé dans un autre pays. Tu sais, juste pour vous donner une idée, on prend un Haïtien, par exemple, pour faire de plat avec un pays en particulier, mais prenons par exemple un Haïtien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Haïti qui sont installés au Québec. Et puis on le transplante au Québec, et puis son revenu peut passer de 1 000 par année à 25 000 par année, par exemple.
Mm-hmm.
Il n'est pas devenu meilleur, il n'est pas devenu tout à coup une autre personne, c'est la même personne encore. Sauf qu'ici, on a plus d'équipements, on a plus d'outils, on a plus de technologies, on a des meilleures technologies. Mais cette personne-là, automatiquement, produit une plus grande valeur en travaillant même nombre d'heures ou même en travaillant moins. C'est ça qu'on appelle de la productivité plus élevée. Et puis, il y a d'autres pays où ils ont beaucoup plus d'équipements, de technologies et tout le reste que nous. Tout simplement parce qu'au fil des années, ils investissent plus que nous dans la technologie, puis ils investissent plus dans l'équipement.
Donc, il faudrait qu'on donne les moyens aux Québécois d'être plus productifs. C'est ce que vous suggérez.
Exactement. Puis c'est pas miraculeux, puis c'est pas de la magie tout ça là.
Mm.
Si on n'investit pas beaucoup, on n'aura pas à long terme un niveau de vie élevé. On va plutôt stagner.
Ouais.
Et puis vos auditeurs démontrent, je pense, ce que ça veut dire stagner en termes de revenus. Hein. C'est des vies qui sont qui sont stressantes, dans lesquelles on s'endette, etc., etc.
Mais puis il y a l'autre élément.
Un des facteurs importants, c'est l'État.
Voilà.
C'est que l'État est 27 % plus gros à peu près que la moyenne canadienne au Québec. Et puis voilà. Ça veut dire qu'on paye plus de taxes. Puis quand on paye plus de taxes, ben ça tue l'investissement. Quand on regarde le Québec par rapport au Canada, on a à peu près 14 % de l'investissement canadien. On est 23 % de la population. OK, on sous-investit, puis l'obésité de l'État est en bonne partie responsable de ça.
Donc, vous dites qu'il faut absolument qu'on réduise la taille de l'État, c'est ça?
Il faut qu'on réduise la taille de l'État. Il est trop gros. Si on venait juste à la moyenne canadienne, par exemple, ça ferait déjà une grosse différence.
Comment on fait ça, Germain Belzile?
C'est 52 % du PIB, l'État québécois. C'est 41 % en moyenne au Canada. Ça fait une méchante différence. Les dépenses de mission sont plus élevées au Québec, en partie. On redistribue plus au Québec aussi qu'ailleurs, mais il faut taxer le monde pour ça. Hein?
Ouais.
Et c'est un impact dévastateur. Alors, le choix qu'on fait là, au Québec d'avoir des niveaux d'imposition beaucoup plus élevés qu'ailleurs, c'est pas un choix... Ou en tout cas, ça a des répercussions qui ne sont pas juste idéologiques. Là. Ça a des répercussions carrément sur notre niveau de vie. Il va falloir qu'on s'en rende compte puis qu'on prenne acte de ça. Si, évidemment, si on se complète et on se contente d'avoir un niveau de vie plus faible qu'ailleurs et qui stagne, ben il n'y a pas de problème avec ça. On peut même viser la décroissance, peut-être. Hein, puis imaginez si nos revenus baissaient en plus.
Mais comment on fait ça? C'est ça, là, l'affaire. Comment on met du monde dehors? On réduit le nombre de fonctionnaires? Chaque gouvernement nous le promet quasiment, puis à chaque fois, on se rend compte qu'il en engage encore puis qu'il y en a plus.
Ben oui, mais c'est sûr, et ça passe par ça. Au gouvernement fédéral, quand ils ont éliminé leur déficit, par exemple, entre 95 et 98, ils ont éliminé plus de 80 000 fonctionnaires. Ils n'ont pas tué, là. Puis, la plupart, c'est par attrition qu'ils l'ont fait. Mais ils ont carrément changer leur façon de fonctionner. Puis au Québec, il va falloir qu'on fasse des choix, sans doute aussi, sur ce qu'on offre aux Québécois. Qu'est-ce qui est plus important comme le panier de services qu'on offre? Mais si on veut offrir beaucoup de services, ben on va se surtaxer. Et puis, si on se surtaxe, ben, on va avoir un niveau de vie plus faible qu'ailleurs. Puis le résultat de ça, c'est que à long terme, tranquillement, ben les jeunes Québécois les plus instruits vont s'en aller ailleurs, tout simplement.
Et moi,
je me rends compte à HEC que beaucoup de mes étudiants qui s'en vont en stage, ils ont le goût d'aller voir ailleurs après. Puis, quelquefois, ils se disent que c'est pour quelques années seulement, mais il y en a pas mal qui ne reviennent pas.
OK. Hey, wow. OK. Ben, merci beaucoup, Germain Belzile. Je vais faire réagir à mes invités après la pause et nos auditeurs, bien sûr. 514-790-9850. On a appris pas mal de choses là. Bon, est-ce que c'est relié à la productivité? C'est relié à la taille de l'État? C'est relié aussi au panier de services qu'on s'est choisi ici au Québec, mais qui nous coûte cher? Alors, dans votre capacité personnelle à vous comme contribuable québécois, là, ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous êtes d'accord pour peut-être prendre les suggestions de M. Belzile et puis dire OK, ben on va se payer moins de services, on va réduire. S'il faut réduire, il faut que tout le monde fasse un effort de réduction. On revient tout de suite après. Flore, bonjour. Je pense que vous travaillez pour un organisme sans but lucratif. Votre niveau de vie a-t-il augmenté, Flore?
Non, je pense qu'il a baissé. Je n'ai pas réussi à payer mes dettes. Je suis mère monoparentale. Des fois, on a l'illusion d'avoir une augmentation de salaire, là, mais quand vous répartissez ça sur toutes vos payes, au bout, ça donne pas grand-chose. C'est 20 sous par là, puis ça marche pas, au fond. Pourtant, je fais des choix. Je suis sensible à la consommation, à nos habitudes de consommation, mais en même temps, au bout, je vois pas le résultat concrètement. Donc, peut-être que je devrais faire mieux, certainement, mais... Jusqu'ici, non. Je pense que mes revenus n'ont pas du tout augmenté.
Ouais. Disait Germain Belzile, le chercheur de l'Institut économique de Montréal, qui dit, bon, il y a le fait qu'on n'a pas assez investi au Québec en productivité, puis on comprend que ce n'est pas juste des bras qui font plus, mais bien des machines qui nous aident, une technologie. J'y pensais encore dernièrement, il y a des gens au Québec qui n'ont même pas accès à Internet haute vitesse. On est ticlin des fois, on est derrière, puis c'est pas pour rien.
Et le fax à l'hôpital, parle-moi pas là-dessus.
Le fax à l'hôpital, non, partons-nous pas là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vrai, technologiquement, là, c'est pas la faute des travailleurs. Je pense que les travailleurs montrent qu'ils veulent, tu sais. C'est rendu qu'il y en a beaucoup qui mangent leur sandwich en travaillant le midi, là. Fait que, bref, on veut, en même temps, on nous dit l'État est obèse. Est-ce que vous, Flore, vous seriez d'accord pour avoir moins de services de ce point de vue-là?
Oh non, moi, je suis immigrante, vous pouvez le deviner. Et les services, c'est ce qui fait que les immigrants pensent que c'est beau ici. Parce que vous l'avez dit tantôt, là, la plupart des immigrants disent on a une belle qualité de vie au Canada et Québec en particulier. Mais c'est pas tant le revenu qu'ils font à leur travail, vous voyez. c'est aussi tout ce qu'il y a autour.
Ouais.
Les allocations pour les enfants, la RAMQ, c'est complètement... On vient de Mars. Les gens pensent que vous venez de Mars quand vous le racontez. Là, en Afrique, par exemple, il n'y a pas de RAMQ.
Ouais.
Vous payez pour tous vos soins. Donc, simplement ça, pour beaucoup de gens, ça fait que c'est assez confortable.
Ouais.
Mais en même temps, on a accès au crédit ici, ce qui n'existe pas dans la plupart des pays d'Afrique. Vous n'avez pas de crédit. Donc, du coup, la culture, c'est d'éviter les dettes. Et soit on va continuer d'être sobre ici, soit on va complètement perdre les pédales et avoir plein de dettes parce qu'on a de l'argent accessible facilement.
Merci, Fleur. Merci beaucoup de votre témoignage. Fleur nous dit que c'est assez confortable ici quand on compare ne serait-ce qu'à l'Afrique, mais ça va, c'est en train de l'être de moins en moins. Je veux dire, on a quand même de moins en moins accès à des services qui nous coûtent de plus en plus cher. Est-ce que ça vous fait réagir? Yannick, là-dessus, Yannick Gagné?
C'est ce que j'aimerais avoir, moi, une étude qui nous montrerait combien on paye pour nos services et combien vraiment on utilise. Pour voir vraiment l'argent qu'on paye, les taxes qu'on paye, est-ce qu'on rentre vraiment dans notre argent en tant que payeur de taxes, de payeur d'impôts? Je serais très curieux de voir si on est vraiment plus rentable de cette façon-là, si ça vaut vraiment la peine.
Ouais. Et où les cartes. Puis on décide si on doit couper ou non. Ouais, peut-être. Patrick?
Ça peut-être une façon de montrer à tout le monde comment qu'on. Peut-être de montrer aux gens que oui, il faut couper, il faut s'ajuster.
En tout cas, en santé, là, ça a été un fiasco jusqu'à maintenant. On n'est pas capable de dire aux. Regarde, on a de moins en moins accès, ne serait-ce qu'à la première ligne. On est obligé d'aller au privé. Puis là, on paye des deux bords. Là-dessus, Patrick.
Par rapport à l'étude de l'IEDM, c'est que moi, je pense que personne ne veut retourner dans l'ère d'austérité libérale des 3-4 dernières années où on a vraiment magané le système d'éducation, la santé et tout. Et je crois encore au rôle moteur de l'État dans l'économie au Québec, mais évidemment, on ne veut pas retourner à l'État-providence des années 60. Et dans certains cas, ben, peut-être réviser les programmes comme l'assurance médicaments. Mais pour le reste, on a un programme, des programmes sociaux exceptionnels au Québec. Est-ce que les coûts sont bien contrôlés? Ben, je pense que M. Legault, dans les prochains mois, va devoir montrer qu'il veut vraiment aussi bien gérer l'argent des Québécois.
Mais tu parles d'austérité. Tout ce qu'on a fait, c'est serrer la ceinture du monde, mais on n'a pas demandé les mêmes efforts dans les ministères. Est-ce qu'on l'a fait?
Ben,
on
oui,
a coupé, mais... on a passé la gratte sans jugement à certains endroits, ce qui a affaibli
beaucoup
le système.
Beaucoup en éducation et ça nuit beaucoup à l'innovation, entre autres dans les universités, dans les équipements, dans la robotique et un peu partout.
On a pris
beaucoup de retard dans les 20-25 dernières années de ce point de vue-là.
Isabelle est avec nous. Bonjour, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Moi, pour y aller dans une autre optique, je suis inquiète au niveau de l'écart entre les riches et les pauvres. Je suis inquiète au niveau de mon enfant. Moi, mes enfants, l'avenir, moi, je trouve que, tu sais, on y va avec le prix des maisons, qui est incroyable. Ce que ça coûte pour nous loger, tout le budget va dans le logis. Et puis là, ben, je pense que ça nous pousse vers la simplicité volontaire.
Ouais.
On est en train de creuser là, entre les riches et les pauvres. Ouais. Moi, mon enfant, là, je pense que s'il n'hérite pas, puis si je m'arrange pas pour qu'il y ait une maison ou en tout cas un héritage, quelque chose pour se loger, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Le prix des maisons est incroyable. Ça n'a même pas de bon sens. C'est même plus accessible.
Vous avez raison. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. J'ai Simon qui m'écrit. Il vient d'avoir son deuxième enfant en octobre avec l'achat une réparation d'une toiture. On a décidé de passer aux couches lavables pour économiser de l'argent. On a lâché le câble et on a lâché la voiture aussi. On marche pour aller travailler. C'est à 5 minutes de la maison. Fait qu'on voit qu'il y a des efforts là, qui sont faits par les gens. Merci beaucoup, Patrick White.
À bientôt, Isabelle.
Oui, merci Yannick Gagné. Merci d'avoir été là. On se retrouve tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.